Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être au rendez-vous. Je vous l'avais annoncé lors de la dernière mission, aujourd'hui nous allons parler d'animaux et de nature comme prévu, mais aussi de livres. Car ce week-end, les 20 et 21 octobre à Labège, près de Toulouse, a lieu la 18e édition du festival Scientilivre, qui pendant deux jours met à l'honneur les ouvrages dédiés aux sciences. Et cette année, comble de bonheur, le thème choisi est « Dans les pas de l'homme et de l'animal ». Il y aura des livres bien sûr, mais aussi des animations, des ateliers, des projections et des conférences. Tout un programme. Pour cette émission un peu spéciale, j'ai la chance de partager le micro avec Frédéric Lissac, qui est le directeur et fondateur des éditions Plume de Carotte, qui sont spécialisés sur des ouvrages qui explorent le lien entre l'homme et la nature. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Pas de quoi, merci à vous de l'invitation.
Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un sujet surprenant, drôle, intrigant et controversé, voire carrément brumeux, la cryptozoologie. En piste. La cryptozoologie. Qu'est-ce donc que cela ? Le terme vient du grec, forcément, de cryptos, caché, zone, animal, et logos, discours, science. La cryptozoologie est un néologisme attribué au naturaliste Ivan Sanderson, mais a été popularisé dans les années 50 par celui que beaucoup considèrent comme le père de la cryptozoologie, le zoologue belge Bernard Heuvelmans. La définition qu'il en donne est la suivante, l'étude scientifique des animaux cachés, c'est-à-dire des formes animales encore inconnues au sujet desquelles on possède seulement des preuves testimoniales et circonstancielles ou des preuves matérielles jugées insuffisantes par certains. Mais dans les faits, comment ça se passe ? L'approche du cryptozoologue consiste à collecter des témoignages, des indices sur l'existence d'un animal encore inconnu des scientifiques pour le décrire et tenter de lui rendre la place qui serait sienne dans la grande classification du vivant. Avec un nom latin, quoi. Autre chose, les cryptozoologues recherchent surtout des animaux inconnus, de grande taille, des bestioles qui claquent un peu. Mais en cela, leur démarche ne s'éloigne pas tant des scientifiques qui se font concurrence pour être les premiers à publier dans un journal prestigieux, comme Science ou Nature. Non, la vraie limite de la cryptozoologie et qui fait grincer les dents de nombreux biologistes, c'est que pour confirmer scientifiquement l'existence d'un animal, il faut un individu, vivant ou mort, que l'on peut étudier à loisir pour le placer effectivement dans l'arbre du vivant. Étape dont ne s'encombrent pas tous les cryptozoologues. Et oui, vous l'aurez compris, les cryptozoologues traquent les animaux insaisissables qui peuplent notre folklore. Yeti, monstre du Loch Ness, Mokolé Membé, un dinosaure sauropode comme le Diplodocus ou le Brachiosaure qui entrait les marais du Cameroun, grand serpent des mers, poulpe monstrueux et tant d'autres. Supercherie, pseudo-science, peut-être. Mais un peu de fantaisie ne peut pas faire de mal tant que l'on garde un scepticisme de bon aloi et un peu de recul amusé. Ce que je trouvais intéressant et ce qui m'a poussé à faire cette chronique, c'est la ligne parfois très floue entre le fantasme halluciné et la réalité scientifique. Je m'explique. Il faut savoir que de très sérieux chercheurs étaient des cryptozoologues avant l'heure, à une époque où les données sur la faune étaient encore, disons, fragmentaires. Des naturalistes décrivaient les mœurs de la licorne ou de la manticore, cette bête chimère entre le lion et l'homme, dans les bestiaires médiévaux. Hérodote évoquait le mode de vie des griffons. Pierre-Denis de Montfort évoque dans son ouvrage d'histoire naturelle le kraken, monstre marin gigantesque aux effrayants tentacules. Et Heuvelmans lui-même a fait une thèse sur un animal curieux mais bien réel, l'oryctérope du Cap, qui se nourrit de termites qu'il déniche en creusant le sol. Aujourd'hui encore, certaines études très sérieuses tentent de démêler le vrai du faux. En 2012, le généticien de l'université anglaise d'Oxford, Brian Sachs, a lancé en partenariat avec le musée zoologique de Lausanne une grande étude génétique de poils, issus de musées et de collections particulières et attribués au Yeti. Ils ont analysé de manière rigoureuse 30 échantillons de poils et même si le résultat peut paraître décevant pour les plus rêveurs d'entre nous, il n'en est pas moins intéressant. L'étude, publiée en 2014 dans le journal Proceedings of the Royal Society of Biology, révèle que beaucoup d'échantillons proviennent d'un ours polaire du Paléolithique, donc vieux de 40 000 ans. D'autres poils proviendraient d'espèces d'ours difficiles à identifier, peut-être des hybrides d'ours bruns et d'ours polaires vivant dans l'Himalaya. Souvent, les cryptozoologues cherchent à rapprocher ces animaux fantasmagoriques d'espèces fossiles qui auraient pu survivre jusqu'à nos jours, comme Nessie, que l'on a pensé être un pléiosaure, un reptile aquatique contemporain des dinosaures, ou encore le Yeti, qui pourrait être un gigantopithèque, un singe de plus de 3 mètres de haut qui a effectivement vécu il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Mais vous vous en doutez, cette démarche est rarement couronnée de succès. À quelques exceptions près, on peut évoquer le cas du sélacanthe, ce curieux poisson à l'allure préhistorique que les Européens n'ont découvert qu'en 1938, un peu par accident et en pêchant un spécimen au large des Comores, et dont une deuxième espèce a été trouvée en Indonésie en 1999. Pendant longtemps, les Occidentaux ne connaissaient que des ancêtres fossiles de cet animal, alors que les pêcheurs locaux, eux, en avaient déjà bien vu, bien qu'ils vivent en eau très profonde. Il est arrivé une histoire un peu similaire au takai, une espèce de poule d'eau géante au bec rouge et aux plumes violettes qui ne vole pas. On en connaissait des fossiles, là aussi. Quelques oiseaux bien vivants furent observés en Nouvelle-Zélande à la fin du 19e siècle, puis on n'en vit plus aucun pendant des décennies. Et ce n'est qu'en 1948 qu'une population a été retrouvée. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de falsifications et de témoignages farfelus qui jalonnent l'histoire de la cryptozoologie. Des photos trafiquées qui ont entretenu le mystère pendant des décennies, dans le cas de Nessie, le monstre marin écossais, des singes grimés pour ressembler au Bigfoot, des maquettes qui assemblent des singes et des poissons pour ressembler à des sirènes, et tant d'autres. Mais parfois, les enquêtes cryptozoologiques ont eu de beaux succès et continuent encore de faire palpiter le cœur de certains chercheurs. Figurez-vous que l'okapi, ce cousin rayé de la girafe qui vit dans les sombres forêts équatoriales du Congo, a été découvert en suivant cette démarche de la cryptozoologie. L'explorateur Stanley entendit des rumeurs venant des pygmées qui évoquaient un âne mangeur de feuilles appelé Atti. Puis, c'est la persévérance de l'administrateur britannique colonial Sir Harry Johnston qui poursuivit l'enquête en dénichant des lanières de peau zébrée du mystérieux animal, puis une peau entière, puis des crânes. Le suspense dure jusqu'en 1901 où le zoologue britannique Lancaster déniche bel et bien un animal vivant et le baptisera Okapi Johnstoni en hommage à l'enthousiaste gouverneur. Plus récemment, en 1993, c'est le saoula, une petite antilope aux longues cornes effilées qui a été découverte dans les hautes forêts d'altitude entre le Vietnam et le Laos, en suivant la même méthode. Ces dernières découvertes sont un vigoureux rappel et une incitation urgente à sauvegarder les fragiles écosystèmes de notre planète, car sinon, il y a fort à parier que les saoulas et les okapis que nous ne connaissons pas encore disparaîtront avant même que nous en apprenions l'existence. J'espère que cette introduction à la cryptozoologie vous aura amusé ou intéressé, et je conclurai sur les mots très sages d'Éric Buffetot, auteur de l'ouvrage « À la recherche des animaux mystérieux » et chercheur émérite au CNRS. Contrairement à ce que peuvent croire les tenants d'un rationalisme étroit, il n'est pas interdit d'introduire une part d'imagination, voire de rêve, dans la recherche scientifique. Si le rêve demeure maîtrisé, elle n'en devient que plus créative. Le temps de vous remettre de vos émotions, on écoute The Brush Descends the Lens de Stereolab. Thank you. C'était The Bruges Descend the Lens de Stereolab. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nitpi. Nous revoici avec Frédéric Lisac, éditeur et directeur des éditions Plume de Carotte. Merci d'être avec nous. Vous serez ce week-end au festival Scientilivre et vous aborderez lors d'une table ronde comment transmettre les sciences par les livres. Mais avant cela, la cryptozoologie, vous, qu'est-ce que vous en dites ?
Ah bah c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est effectivement, comme vous le racontiez très bien, c'est un mélange de science, de fantasmes, d'imaginaire, d'arnaque économique aussi, qui a accompagné les hommes dans leur... C'est une forme de recherche quand même, de compréhension du monde, mais déformée. Un des exemples les plus connus, c'est la licorne, ou même s'il y a des licornes décrites depuis le bas Moyen-Âge, voire l'époque romaine, il y avait quand même ces fameuses dents de narval, qui étaient un cadeau royal offert par le gouvernement danois qui possédait le Groenland au cours d'Europe. Notamment François Ier avait reçu une corne de narval, et qu'on retrouve dans sa forme, une dent de narval, puisque c'est une dent. Une dent unique, et qu'on retrouve dans beaucoup de représentations de la Dame à la Licorne, où on a cette espèce de dent torsadée énorme, où c'est évident que le manque d'informations et l'envie de fantasmes, mais mêlé avec une démarche scientifique, faisait qu'il y avait cet aspect-là. On est allé jusqu'à même, c'est assez rigolo, moi j'avais lu une étude que des gens très sérieusement décrivaient que, attention, les cornes de licorne, la majorité, 90% à peu près, étaient dextrogyres, c'est-à-dire tournant dans le sens droit. Et il y en avait 10% les vaugyres. Enfin voilà, il y avait des espèces de raisonnements de données et qui, comme vous le disiez aussi, quoi, créaient une poésie, je trouve, qui est assez formidable. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est au cœur de ce que j'aime faire au sein de la maison d'édition Plume de Carotte, c'est ces liens entre la nature et les histoires humaines, dont font partie l'imaginaire, évidemment.
Exactement. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Donc Plume de Carotte, c'est la maison d'édition que vous avez fondée en 2001. Racontez-nous tout ça.
Ben oui, c'était il y a déjà 17 ans.
Le temps file.
Moi, j'ai un parcours à la fois scientifique, puisque j'ai débarqué à Toulouse il y a une trentaine d'années pour des études vétérinaires. Et puis, j'étais aussi beaucoup dans des associations, pas de protection de l'environnement, mais d'éducation à l'environnement.
D'accord. Donc au contact avec du jeune public, ce genre
oui,
de choses.
Oui, et puis aussi à une époque dans les années 90 où il y avait pas mal de recherches sur les méthodes pédagogiques hors temps scolaire. Donc où on est plus, pour résumer très brièvement, dans les savoir-faire que dans les savoirs. Mais justement, un savoir-faire pour aller vers des savoirs. Et donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et en fait, très vite, j'ai bifurqué, je suis allé jusqu'au bout des études vétérinaires. Pour faire plaisir à mes parents. Non, je rigole. Mais ça m'a passionné l'idée de transmission. L'idée à la fois... Je pense qu'au départ, c'est l'idée de transmission. Et donc, j'ai été journaliste, j'ai été auteur de livres pour enfants sur la nature pendant un petit bout de temps. Et puis, il y a à peine une vingtaine d'années, il y a une espèce d'urgence qui, pour moi, s'est imposée. C'est qu'on parle peut-être de plus en plus d'environnement. Et je pense que par rapport à il y a 30 ans, dans les médias, dans le grand public, je pense que les gens ont entendu parler d'environnement, mais à la fois, il y a un manque d'efficacité totale, ça c'est, voilà, qui tient quand même...
Les modes d'action sont assez restreints pour l'instant, en tout cas.
Bah, en tout cas, il n'y a pas de prise en compte par la plupart des pouvoirs publics, ce qui fait qu'il peut y avoir des initiatives citoyennes, ça ne suffit pas. Mais aussi, une coupure de nos sociétés avec la nature. On a beaucoup parlé d'environnement, effectivement, les déchets, les transports, l'énergie, etc. Il y a un truc, c'est comme les pyramides alimentaires, il y a un truc qui est à la base, c'est la nature. Mmh. Et ça, j'ai trouvé, je ne suis pas le seul, on a fait partie d'un groupe de personnes qui ont réfléchi, des éducateurs, des enseignants, où on avait un peu perdu ce côté nature, et surtout un manque criant de contact avec la nature. Et ce n'est pas du tout réglé aujourd'hui, en 2018, et je pense qu'il y a un besoin fondamental de renouer, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte. Ça tient à notre société qui est essentiellement urbaine, très urbanisée, mais ça tient aussi à une démarche où, même si on habite en ville, c'est pas compliqué d'aller voir, même ici sur le campus de Rangueil, il y a des coins où je peux vous montrer une cinquantaine de plantes. Quoi. Il y a un petit coin près du métro de Rangueil qui est même préservé, qui est même une sorte de réserve où il y a des espèces de tritons et de salamandres.
D'accord.
Voilà, donc c'est pas une absence de nature forcément, c'est plutôt une coupure de notre
entre
société.
Entre l'homme et la nature.
Et pour moi, elle s'accompagne aussi d'une coupure avec l'intérêt pour les sciences de manière générale et les sciences naturelles.
Pourtant, on pourrait se dire, bon, ma vision est peut-être un peu naïve, mais qu'au final, beaucoup d'enfants sont intéressés par la nature et les animaux et les plantes, non ?
Oui, mais c'est un intérêt où on ne met pas forcément à leur portée des outils pour le rendre réel, pour le rendre vivant.
D'accord.
Je prendrai un exemple tout bête, mais qui est assez dramatique. C'est la disparition totale depuis une quinzaine d'années des classes vertes.
C'est vrai.
Avec pourquoi ? Pour une, sans doute des histoires de moyens, mais aussi une société qui se part d'une hyper-sécurisation de plus en plus grande.
On n'ose plus envoyer les enfants à la
qui
campagne.
Qui fait que et... les classes vertes, ben non, parce que les responsabilités, ceci et cela, mais aussi à l'échelle des parents, qui vont être les premiers à dire à un enfant, ne grimpe pas à un arbre,
oui.
ou pose ce couteau, tu vas te couper. Moi, je prône le droit des enfants de se couper.
C'est comme ça qu'on apprend, c'est sûr. Mais de ce fait, vous, quel genre d'outils proposez-vous à travers le livre, le plus souvent, pour
oui.
essayer justement de reconnecter l'humain à la nature.
Le moteur, en tout cas, qui, moi, me semble très fort et que j'espère mettre dans nos livres, que ce soit les livres adultes ou les livres enfants, c'est le moteur de l'émerveillement, de la curiosité et du plaisir.
D'accord, ce qui est un bon point de départ.
Voilà, j'ai du mal à croire d'un point de vue pédagogique, je ne parle pas de politique, évidemment, mais d'un point de vue pédagogique, et je parle aussi des adultes, hein, encore une fois, de l'alerte, des messages, enfin on le voit bien malheureusement, parce qu'à la rigueur on peut se dire, mais avec tout ce qu'on entend, mais pourquoi ça ne réagit pas ? On est bien forcé de reconnaître qu'il y a un manque d'efficacité. Et je pense que ça tient essentiellement au fait que, enfin il y a deux choses, il y a un, c'est anxiogène. Quand on vous dit, ben bah oui, le climat va changer, ou le nucléaire, ou la disparition des espèces, etc. C'est anxiogène, donc on n'a pas forcément envie, enfin on est tous
trop
pareil,
on
a envie de se protéger un petit peu, voilà, on fait un petit peu l'autruche. Je pense que c'est la raison principale. Parce qu'on se coupe, revient un petit peu, on parlait de cryptozoologie, on parlait de fantasme, revient le fantasme où tout est dangereux ou compliqué, ou dans un autre genre, regardez le débat sur l'ours en ce moment, quoi.
Oui.
Mais le nombre de bêtises, de stupidités qu'on peut entendre, qui sont soit naturalistes, soit sociales, soit paysagères, etc., etc.
Politique.
On est évidemment politique, on n'est plus du tout dans une réflexion scientifique de milieu naturel, d'équilibre, de pyramide, etc. Le débat n'est pas du tout là en ce moment. Ça a été pendant des siècles, voire des millénaires, le débat sur le loup et qui ressurgit,
oui.
où on est dans le fantasme et pas du tout effectivement dans... Et moi je pense que ça tient essentiellement à un manque de contact. Donc, pour répondre à votre question, on essaie de faire des livres qui donnent le goût du contact avec la nature.
Alors comment vous
c'est très prétentieux.
Dans les faits ?
Alors dans les faits, c'est pas très compliqué en fait. On ne parle pas de nature, on parle d'histoire humaine autour
D'accord.
de la nature. Parce que si on réfléchit bien, bah, les liens avec la nature, on en a toujours. On en a toujours. Il faut savoir qu'il y a plus de 50% des médicaments aujourd'hui, qu'il y a eu le développement de l'industrie chimique évidemment, qui sont à base de plantes, qui ont au moins des molécules végétales. Il faut savoir que jusqu'à preuve du contraire, notre alimentation, elle est quand même issue du monde animal ou du monde végétal, même si c'est de l'élevage, même si c'est de la culture. Il faut savoir que, il y a le monde du pétrole, mais les vêtements en coton, les vêtements en laine, les vêtements en lin, les vêtements en fibre de chanvre, etc., ça existe
aussi,
toujours.
Bien sûr.
Etc. C'est aussi des choses peut-être plus diffuses. Je pense à tout ce qui est artistique, l'inspiration d'écrivains, de cinéastes sur la nature, qui sont quand même des sujets très très forts qu'on retrouve dans bien des œuvres.
Vous avez sorti un livre là-dessus, c'est ça ?
Tout à fait, qui s'appelle Esprit de nature, qui sont des reprises de textes de grands écrivains du monde entier qui parlent de nature. Et c'est extraordinaire parce qu'en fonction de leur sensibilité, de leur civilisation, de leur époque, de leur courant littéraire, évidemment, ils ont une vision de la nature qui peut être très différente. Vous avez Edgar Poe, c'est assez sombre.
Comme on peut s'en
exemple,
douter.
Mais c'est très fort. Et puis vous avez Shakespeare, c'est...
Auquel on ne s'attendrait pas forcément pour parler de nature.
Avec une écriture absolument admirable, évidemment, et pas forcément facile à lire, peut-être plus facile à voir en théâtre, mais qui parle de nature avec une poésie et un sens de l'allégorie assez fort, quoi. Donc c'est vraiment ces liens entre homme et nature qui disent, mais regardez, de toute façon, ne nous voilons pas la face. La nature, on est en plein dedans, on vit avec elle, on construit avec elle, on rêve avec elle. Voilà, nos livres tentent de raconter tout ça.
Nous revoici dans la deuxième partie de cette interview avec Frédéric Lissac, directeur des éditions Plumes de Carotte. Donc nous parlions de livres, de reconnexion à la nature et de manière comment reconnecter donc les enfants et les adultes par intermédiaire des livres à la nature. Donc vous le disiez, on peut évoquer des écrivains qui se sont essayés à écrire la nature et à la décrire, comme Jack London ou tant d'autres. Mais quelle autre façon peut-on essayer d'appréhender pour recréer ce lien entre l'humain et la nature ?
Moi, je crois beaucoup. Tout à l'heure, je parlais du moteur du plaisir, de l'émerveillement. Le livre offre, différents types de livres offrent ce genre d'émotion, ce genre de contact. Ça peut être un roman, on parlait de littérature, mais ça peut être des romans pour enfants. Là, il se trouve que depuis un an et demi, on a sorti une nouvelle collection de petits romans qui s'appelle Enquête au muséum, en partenariat avec un certain nombre de muséums de France et notamment particulièrement le muséum de Toulouse, qui sont en fait des petits romans pour des enfants de 8 à 12 ans. Imaginez le club des 5 au muséum. Voilà. Des sales gosses qui attendent la nuit pour rentrer clandestinement dans des musées, parce qu'ils mènent des enquêtes, parce qu'ils vont tomber sur des voleurs, parce qu'ils sont à la recherche de documents un peu particuliers. Il y a toute une trame narrative autour des deux fillettes. C'est du vrai petit roman d'aventure pour premier lecteur, donc avec un style d'écriture, des ressorts classiques de romans, des petits retournements, des choses comme ça. Il n'empêche qu'en creux, derrière, le travail qu'on fait avec l'auteur et avec les muséums, c'est une vraie découverte des collections ou des missions des muséums d'histoire naturelle. Donc ça va être un bouquin où on va carrément, et on peut aller très loin, on va parler d'Alfred Wallace et de Charles Darwin. Voilà. Il y en a un autre, ça sera sur l'évolution, l'adaptation des végétaux face à la prédation, parce que ça tourne autour d'un nénuphar géant qu'on trouve en l'occurrence en Amérique du Sud, mais surtout dans des serres à Kew Garden à Londres. Voilà, donc ce procédé narratif, si vous dites aux enfants « je vais t'expliquer l'émission du muséum d'histoire naturelle », déjà ça fait vieux papy, les muséums, même s'il y a eu des très belles rénovations comme la Galerie l'Évolution ces 20 dernières années
ou le
muséum de Toulouse, ça reste quand même globalement dans la tête des gens quelque chose d'un peu vieillot, des animaux empaillés, des choses comme ça. Alors qu'évidemment, il y a un aspect public déjà, et puis il y a l'aspect tout ce qui est recherche derrière, et ça a une histoire, il y a évidemment des choses passionnantes à raconter, et qui nous reconnectent au vivant. Je trouve que les muséums, notamment aujourd'hui, ont une mission fondamentale, c'est ce lien avec le vivant. Le vivant qui s'appelle des espèces, qui s'appelle des variétés, qui s'appelle des genres, qu'importe, mais qui n'est pas uniquement un ADN qu'on va décrypter, un génotype qu'on va décrypter. Voilà. Dans le genre, on s'est un peu coupé de la nature, y compris, je trouve, le domaine de la recherche depuis 30 ans, qui a mis d'énormes moyens, et tant mieux, dans la biochimie et encore plus dans la recherche génétique. Mais
en écologie, en éthologie, c'est autre chose.
Allez chercher, vous êtes bien placé pour le savoir, je crois.
Oui.
Voilà.
Il
y a évidemment beaucoup moins de moyens. Alors que je pense que le monde, à travers les espèces, l'observation des espèces, de leur comportement, etc., mérite encore, évidemment, de larges recherches. Et on est dans du concret face au vivant. Je veux bien que face à une molécule d'ADN sous un microscope électronique, on soit aussi face à du vivant, mais
ça reste plus abstrait.
C'est pas la même chose. Donc voilà, cette coupure avec la nature ne concerne pas que le grand public, quoi. Donc voilà, donc le roman pour enfants peut être un moteur.
Vous avez des retours de vos lecteurs ? Ils ont retenu des choses, s'ils sont plus pris par l'histoire et les personnages ?
Alors j'ai pas eu des retours de ce genre. Par contre, j'ai vu, encore ce week-end, il y avait un salon du livre à Toulouse, à la librairie La Renaissance, Polar du Sud, où Laurence Talleyrat qui était invitée. Et je crois qu'elle a dédicacé quelque chose comme 120 bouquins.
Ah oui, d'accord.
Et avec des gamins qui venaient en disant « J'en ai déjà lu deux, je voudrais en lire d'autres. »
Voilà. Ah oui. Enfin, ils accrochent.
Voilà.
Ouais.
Je pense, soyons clairs, je pense que leur réaction, elle est face à la dynamique de la narration, du petit roman, des choses comme
tout,
ça.
Il
n'empêche qu'en creux, voilà, exactement. Voilà. Un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est un livre dont je suis particulièrement fier parce que le défi était assez compliqué au départ. Le thème est magnifique, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est toutes les inventions que l'homme a pu faire en observant la nature.
Ouais.
Qu'est-ce que fait la nature ? Je vais le reproduire. Il y a des exemples très connus.
C'est plutôt une bonne idée.
C'est plutôt une très très bonne idée parce que la nature, depuis des millions d'années, non pas réfléchi, je n'irai pas jusque-là, mais a créé un certain nombre de technologies, d'adaptations, de choses comme ça. observons-la déjà.
Qui fonctionne plutôt pas mal.
Exactement. Bon, les exemples, il y a des exemples qui sont très connus, c'est par exemple le velcro, qui est né de l'observation d'une plante qui s'appelle la bardane, une plante très commune qu'on a chez nous, qui en ce moment d'ailleurs est encore en graines, et qui a des espèces de petits crochets. Et voilà, c'est un médecin anglais qui, en baladant son chien en 47, je crois, rentre de la balade. Son chien avait plein de ces fruits de bardane dans les poils. Ouais. C'était infernal. Il observe, il voit ce double système de crochets et il invente le velcro. Qui a été utilisé, enfin qu'on utilise dans la vie commune et qui a été utilisé par la NASA pour les missions spatiales sur la Lune, enfin, etc., etc. Voilà, un petit exemple du biomimétisme. Mais on pourrait parler de la roue, on pourrait évidemment parler des avions.
Oui, les oiseaux,
avec
sûr.
Les oiseaux, de l'hydrodynamisme, et aussi des recherches très, très actuelles, y compris de déplacement des foules en observant les fourmis, des choses comme ça. Bref, passionnant, mais à raconter en livre.
C'est pas toujours facile.
Grand public. Voilà. Et donc, on cherchait l'idée. On avait une auteur qui avait fait un très bon boulot de rassemblement d'infos. Moi, je voulais montrer. Je voulais que les gens, ce côté émotion, tout ça. Et en fait, on a eu l'idée de reconstituer des sortes de travail des savants, comme si on était au moment de l'Eureka. Et donc, on a travaillé avec des muséums où on est allé chez eux photographier un certain nombre de pièces animales ou végétales. Et on a travaillé avec un illustrateur qui nous a réalisé des petits carnets comme si c'était
j'ai la chance d'avoir le livre sous les yeux.
C'est de la radio qu'on fait là, c'est
ça. C'est de la radio, tant pis pour vous. Mais dans le livre, par exemple, on voit une page qui reproduit comme un herbier avec la plante comme si elle était fixée sur la page.
Voilà, comme si le scientifique avait posé la planche sur sa table de travail et qu'il s'était mis à griffonner système d'accroche, là en l'occurrence de la bardane. Voilà, et donc ça peut être une histoire de chenilles, de chenilles arpenteuses qui ont un mouvement tellement régulier qu'on a inventé des systèmes de chronomètres électroniques en reproduisant...
Basés sur les mouvements de chenilles.
Exactement.
Moi, je ne savais pas du tout ça.
Voilà, et moi, je suis assez fier de ce livre parce que les infos, évidemment, si on veut aller assez loin dans la compréhension, elles sont là, mais en un coup d'œil, et dans une sorte de mise en scène qui fait rêver, on est toujours là, en me disant « Ah oui, peut-être que le jour où le scientifique a découvert ça, c'était ça qu'il avait sous les yeux. »
Comme ça.
Et ça fonctionne bien, puisque ce livre sur un sujet... Il y avait eu quelques livres de biomimétisme qui étaient déjà parus, mais qui étaient ce qu'on appelle des livres noirs, c'est-à-dire juste avec du texte.
Très peu d'illustrations, oui.
Qui étaient passés plus ou moins inaperçus. Ce livre s'est très très bien vendu, je pense en grande partie, parce qu'il peut contacter, il peut contenter des scientifiques, enfin des gens qui s'intéressent aux sciences, et en même temps, je pense, enfin j'ai cru comprendre que un grand public peut accrocher déjà à ces images et rentrer dans le sujet, quoi.
Exactement. C'est vrai que l'association de l'image et de la notice entre guillemets de l'invention, c'est vraiment une belle idée.
Moi, j'aime bien parler dans nos livres, j'aime bien parler plus que de mise en page, j'aime bien parler de mise en scène.
Oui, voilà. C'est exactement le terme. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Lissac. Le temps nous manque déjà, malheureusement. Cependant, je rappelle que vous serez avec plusieurs auteurs Plume de Carotte à la Bège ce week-end pour le festival Scientilivre, avec notamment Jean-Baptiste de Panafieux, qui est parrain de cette édition, et Laurence Talleyrac, dont on parlait juste avant, autrice de la série Enquête et Muséum. Et on espère vous y voir. On finit avec un petit point bibliographie. Alors, pour celles et ceux que la cryptozoologie a intéressé, tant du point de vue des découvertes naturalistes que pour le côté sociologique, je vous conseille donc trois ouvrages. À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie par Éric Buffeteau, aux éditions du Cavalier Bleu. Et deux superbes ouvrages écrits par Jean-Baptiste de Panafieux et illustrés par Camille Renversade, chimérologue de son état, Créatures fantastiques d'Hérol et Métamorphoses d'Hérol. Tous deux sont édités par Frédéric Issé Présent aux éditions Plume de Carotte, en collaboration avec la vénérable maison d'Hérol, qui est une très ancienne boutique de taxidermie parisienne fondée en 1831. Les deux livres sont objectivement très beaux, explorent les mythes et légendes sur ces animaux fantasmés, mais aussi les faits scientifiques récents, le tout illustré de gravures et de planches anatomiques à l'ancienne. Foncez ! C'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Restez avec nous à 18h, Anna reçoit Philippe Guioni pour parler photographie et science dans Rien à voir, quoique. Pour ma part, je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.